ici Claire. Attends. Bonjour, ici Kélie Leclerc et Anne-Marie Michaud. Nous sommes au sommet du numérique en éducation et nous nous trouvons avec le ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx et M. Thierry Carcenti. Bonjour, M. Proulx.
Bonjour à vous.
Bonjour, M. Thierry.
Bonjour, Mme Kélie.
Nous allons vous poser quelques questions.
Pour commencer, quel est votre parcours professionnel?
Ah, j'ai fait... d'abord, j'ai grandi dans la région de Trois-Rivières, moi. Alors, j'ai fait mes études primaires, secondaires et le cégep à Trois-Rivières. J'ai fait mes études pour devenir avocat à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait le barreau du Québec, donc je suis devenu avocat dans la région de Montréal. Et j'ai pratiqué comme avocat autant à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Et je suis député depuis 2015 ici, mais je l'ai été également en 2007-2008. Alors, ma vie professionnelle, c'est en partie la politique et en partie la pratique du droit.
Merci. Pourquoi avez-vous voulu être ministre?
Bien, d'abord, j'ai voulu devenir député, d'abord, parce que c'est le poste le plus important d'entre tous, parce que si tu n'es pas député, tu ne peux pas devenir ministre un jour. Être député, c'est une grande responsabilité. Moi, j'ai toujours voulu faire du service public. Faire du service public, ça veut dire travailler avec les autres pour transformer notre société en me disant que si moi je le faisais pas, il y en a d'autres qui le feraient à ma place. Puis j'aimais ça de temps à autre contrôler mes affaires. Alors je me suis dit pourquoi pas aller m'investir moi aussi dans ces grands changements, pensant qu'il fallait travailler pour aider les jeunes et toute la société. Moi, une des raisons pour laquelle je fais ce métier-là, c'est aussi pour lutter contre l'analphabétisme. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il fallait offrir à toutes et à tous la possibilité de bien lire et bien écrire. Pour moi, c'est un droit qui nous appartient comme individu. Alors, ça m'a amené à devenir député et à représenter les gens d'une circonscription d'abord, donc un comté à Québec dont je m'occupe. Mais c'est le premier ministre qui m'a offert de devenir ministre. C'est un privilège qu'il m'a confié. Il choisit parmi les députés certains pour occuper des tâches de ministre et il m'a proposé de devenir au début ministre de la Famille et maintenant ministre de l'Éducation, des Sports et des Loisirs. Alors, c'est une grande, grande et belle responsabilité.
Merci.
Que vous pensez de l'enseignement avec le numérique?
Bien, je pense que c'est de très, très belles opportunités pour les élèves et pour les enseignantes-enseignants notamment. Vous savez, aujourd'hui, avant, quand moi j'étais jeune et même avant, je pense à mes parents, si on cherchait des connaissances, on prenait une encyclopédie de A à Z, puis on trouvait à peu près tout ce qu'on avait besoin, ou on disait aux gens, bien, va apprendre ce qu'il y a là-dedans, tout est là. Aujourd'hui, les connaissances, elles ne sont plus dans les encyclopédies, elles sont partout autour de nous. Alors, on apprend différemment. On n'est plus à apprendre seulement par cœur des éléments. On est à être capable, on se donne les moyens d'être capable de trouver ce qu'on cherche, de l'interpréter, d'interagir avec ces différents outils pour créer des choses. Alors, le monde a changé, la façon d'apprendre a changé, le rôle des enseignants évolue ou la façon dont ils peuvent vous aider à apprendre évolue. Je pense que le numérique, c'est un bel outil pour soutenir l'apprentissage. Pas pour remplacer l'apprentissage, pour soutenir l'apprentissage.
Vous avez bien raison.
Oui.
Alors, prochaine question. Que pensez-vous de l'apprentissage par la programmation avec les robots?
Bien, je trouve que c'est très intéressant. C'était assez nouveau. On en voit de plus en plus dans les différentes écoles. Avant, c'était des initiatives locales. Donc, c'est des gens qui, localement, faisaient ce choix, puis on les supportait comme on pouvait, M. Carcenti et nous, d'une certaine façon, mais pas suffisamment. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'être capable d'offrir ces opportunités à tout le monde, à toutes les écoles, à tous les enseignants et enseignantes. Alors, c'est là le défi que nous avons maintenant. C'est de dire, oui, on veut supporter le numérique en éducation, mais ça veut dire déployer des moyens importants financiers, des ressources, des outils technologiques. Alors, c'est là notre défi. Il y a 1 300 000 élèves au Québec, au primaire et au secondaire. Alors, il y a 3 000 écoles et plus, et centres de formation. On va arriver à 4 000 bâtiments presque. Alors, c'est beaucoup de monde à aider, mais il faut aider tout le monde.
Oui.
Et comme le ministre l'a dit plus tôt, c'est pas juste l'idée de mettre des appareils dans les écoles. Encore faut-il savoir les utiliser correctement.
Voilà. Oui. Sinon, on risque de pas trop avancer non plus dans les études, je suppose. On sait pas trop comment ils
Voilà. Puis si on a des outils pour travailler ou des robots pour apprendre à l'école, puis qu'ils se trouvent sur une tablette et qu'ils sont pas utilisés, on rend service à personne. Il y a juste le robot qui se repose.
On développe d'autres capacités.
Oui, avec le numérique, on développe d'autres capacités, d'autres compétences, effectivement. C'est vrai pour les enseignants, mais c'est aussi vrai pour les élèves, oui.
Merci.
Merci à vous.
Quels sont vos projets pour l'éducation lors de la prochaine année scolaire?
Qu'est-ce qui?
Quels sont vos projets pour l'éducation lors de la prochaine année scolaire?
Bien, le numérique en fait partie, parce qu'il y aura des choses qui seront annoncées très bientôt. Puis dès septembre, je pense qu'il y a des choses qui pourront être mises en place très rapidement dans ce qu'on va déployer. Alors, il y a pour les différentes écoles et les centres des opportunités, je dirais, reliées au numérique qui ne sont pas là aujourd'hui et qui pourraient, dès septembre, être dans les classes.
Selon vous, quels sont les enjeux liés à l'utilisation de la de l'utilisation pédagogique des technologies numériques dans les prochaines années?
Bien, je pense que d'abord, comme l'a dit M. Carcendi tout à l'heure, c'est bien d'avoir des outils, mais ça prend de la formation pour bien l'utiliser. Avoir un laboratoire créatif dans une école, mais ne pas être capable de l'utiliser à son plein potentiel, ce ne serait pas une bonne idée ou ce ne serait pas à l'avantage des élèves et de ceux qui travaillent dans l'école. Alors, il y a beaucoup de formes. Le défi, je pense que c'est un défi de formation, d'appropriation des différents outils. Il y a aussi la mise en commun des connaissances. M. Carcenti fait beaucoup de travail avec l'université pour tenter de diffuser à toutes et à tous les différentes recherches, connaissances, ces robots, apprendre à travailler avec eux, mais il y a toute la mise en commun de tout ça. Alors, il faut garder le contact, faire des sommets comme il y a aujourd'hui, mettre des gens en relation. Vous êtes au CFR, vous avez une expertise, puis vous avez des réussites extraordinaires. Mais il faut que tout le monde le sache que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Alors, c'est l'occasion, dans des sommets ou dans des rencontres comme celle-là, de valoriser ce que vous faites, de souligner votre beau travail. Alors, moi, je pense que c'est ça le défi des prochaines années. Implanter des outils, apprendre à travailler avec des outils, puis après ça, se comprendre entre nous puis échanger nos meilleures idées.
Merci, merci. Est-ce difficile de prendre de bonnes décisions dans l'éducation?
Est-ce que c'est difficile? C'est une bonne question. Il y a un certain niveau de difficulté, mais c'est pas difficile de prendre des décisions. Ce qui est difficile, c'est de prendre la bonne décision. Alors, dans les faits, ça nécessite beaucoup de préparation, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite des rencontres fréquentes. Mais moi, je doute tout le temps jusqu'à la dernière minute, pas parce que j'aime pas prendre des décisions que je peux pas en prendre, mais parce que pour moi, c'est important de nous assurer que quand on prend une décision, ce soit en toute connaissance de cause la meilleure décision à prendre. Alors, des fois, ça fait l'affaire, des fois, ça fait moins l'affaire. Les gens... Alors, c'est difficile d'avoir 100% d'adhésion pour une décision, mais... On veut que ce que l'on fait, on le fait bien, puis on le fait pour le bien. Alors, dans ce contexte-là, il faut réfléchir avant souvent. Il faut discuter avec ceux qui nous entourent, qui travaillent avec nous, qui nous proposent des pistes de solutions. Mais il faut aussi aller dans les différents milieux, parler avec des élèves, parler avec des profs, parler avec des chercheurs pour se dire, puis s'assurer que ce qu'on fait, on le fait correctement. Alors, je dirais que ça nécessite une longue préparation pour prendre une bonne décision. Mais une fois qu'on a tous les éléments, ça devient facile de prendre une décision, même lorsqu'elle est difficile, parce qu'on a tous les éléments pour se rassurer et être certain qu'on fait la bonne chose, qu'on fait les bonnes choses.
Une nerf de guerre, c'est l'argent.
Hein? Oui, et ça, vous avez raison, ça devrait aussi faire partie de l'équation. Prendre une bonne décision, c'est une chose. Vouloir réaliser quelque chose d'important à faire, c'en est une autre. Mais, monsieur a raison, si on n'a pas les sommes nécessaires disponibles pour réaliser pleinement le choix qu'on fait, dans le fond, ça devient pas inutile, mais c'est pas payant pour le réseau d'éducation si on prend des décisions sans être capable de les appuyer des dollars nécessaires pour pouvoir les mettre en application.
Merci. Merci.
Merci à vous.
Tantôt, lors de votre entretien avec Thierry Carcenti, vous avez dit que vous aimeriez que la programmation commence le plus tôt possible. Pourquoi est-ce important selon vous?
Bien d'abord parce qu'il y a plein d'exemples, même ailleurs dans le monde, mais ici, où on voit la programmation très tôt dans la vie des enfants et à l'école. Et c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on n'est pas capable d'en faire. La preuve en est, c'est qu'il y a des niveaux et puis il y a des niveaux de difficulté en lien avec là où on est rendu dans son cheminement et son développement. Deuxièmement, parce que plus on débute tôt, mais plus ça fait partie de son environnement et ça devient des éléments qui amènent, je dirais, à se réaliser davantage. Puis, tu sais, quand vous apprenez à lire et compter, bien, ça vous sert dans toutes les matières ensuite. Ben, si vous apprenez des bases en programmation, ça va vous servir avec les technologies toute votre vie. Alors, ça devient des ingrédients de réussite pour vous. Alors, plus tôt on le fait, à mon avis, plus vite on comprend dans quel environnement on est, plus vite on est apte à faire des projets. Puis ces projets-là, c'est ce qui devient intéressant pour continuer à aimer l'école, réaliser des choses qui n'étaient pas dans le programme dès le départ, et ou pour réaliser des projets particuliers, comme vous avez fait avec Robot 360 pour, pour d'autres écoles au Québec. Grâce à vous, il y a des robots aujourd'hui dans les classes, et si ces enseignants les ont, c'est grâce à vous. Alors, c'est extraordinaire.
Bien, merci. En terminant, en tant qu'élève du CFR de Bellechasse, nous aimerions vous inviter à visiter notre école. Merci de nous avoir permis cet entretien avec vous.
Bien, d'abord, merci à vous. Je suis très heureux d'avoir eu cet entretien, puis je reçois avec beaucoup de plaisir cette invitation. On va tenter de trouver le moment nécessaire pour aller vous voir. On est pas mal fiers de vous autres. Bravo.
Merci.
Bravo les filles, merci.
Passez une bonne journée.